vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Deux invités au programme de cette émission. Dans la seconde partie, j'accueillerai Chantal Delsol pour son essai « La fin de la chrétienté » paru aux éditions du CERF. Première partie consacrée aux saisons d'Alsace. Le numéro hors série du mois d'octobre dernier consacré à Jean-Jacques Henner, un maître alsacien. Et pour nous en parler, celui qui a été la cheville ouvrière de numéro, Hervé de Chalandard. Hervé, bonjour, et c'est toujours un plaisir que de vous accueillir au micro de Judaïka.
Bonjour Jean-François, plaisir partagé évidemment.
Hervé, Jean-Jacques Henner, c'est le grand peintre alsacien du 19e siècle, qui a été particulièrement célébré par la Troisième République. Il est né dans le sud de l'Alsace, à Bernwiller. On est dans le Sungau, entre Altkirch et Mulhouse. Il naît le 5 mars 1829. Dans quel milieu familial voit-il le jour ?
Alors, il naît dans une famille de cultivateurs, d'agriculteurs de Bernwiller. C'est une grande famille, hein, ils sont 6 enfants, lui c'est le dernier. Mais c'est une famille qui est ouverte aux choses de l'art. Alors, ce n'est pas du tout contradictoire, évidemment, on peut être dans une famille paysanne, mais aimer ça. Et il se trouve que chez lui, c'était le cas. Il y avait des tableaux dans la maison familiale paternelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sa famille l'a tout de suite poussé dans cette vocation. C'est-à-dire que, bon, il y avait sans doute d'autres frères qui pouvaient évidemment reprendre l'exploitation avant lui. Mais cette vocation artistique qui s'est manifestée très tôt a été très encouragée par ses parents. Son père, Henner, raconte que son père lui parlait notamment d'Apelle, qui était un peintre grec célèbre pour ses démêlés avec Alexandre. Donc vous voyez, il y avait quand même une certaine culture, il y avait des tableaux à la maison, sa maman lui l'éveillait aux choses de la nature. Et il avait seulement 12 ans quand on l'a emmené au collège d'Altkirch, où il a pu suivre les cours d'un professeur qui avait à peine 10 ans de plus que lui, qui avait 22 ans, qui s'appelait Charles Gutzwiller. Et ça a été son premier maître. Il en a eu plusieurs. Après, il a poursuivi sa formation à Strasbourg et à Paris. Il était dans un milieu en fait où ses aptitudes ont été développées et favorisées.
En 1844, il rejoint Strasbourg et précisément l'atelier de Gabriel Guérin, qui est un peintre, je dirais, assez reconnu à l'époque.
Oui, oui, et ça c'est très intéressant parce qu'il s'est retrouvé dans l'atelier de ce peintre qui... Alors on a un article de Florian Siffer qui nous parle de ça. Il se trouve que Florian est un grand spécialiste de Guérin et qui nous rappelle que c'était quand même le portraitiste le plus productif et talentueux des années 1830-1840 à Strasbourg. Et il se trouve qu'en fait, Guérin a formé, était un grand pédagogue, et il a formé autour de lui une école qui a été une école assez importante. Il y a eu chez Guérin, et puis après, quand il se trouve que Guérin est décédé, donc à partir de 1846,
Guérin meurt dans un accident de voiture à Kehl.
Ben voilà.
C'est assez... Ouais, il est inhumé d'ailleurs au cimetière Sainte-Hélène.
Tout à fait, oui. Ouais. Et donc c'était une dynastie de peintres aussi, on peut aussi dire ça. Il y avait son oncle, il y avait son père, etc. Et après, donc, il va à Paris chez un autre peintre qui est d'origine alsacienne, enfin, qui n'est pas né en Alsace, mais son père était né en Alsace, qui s'appelle Drolling. Et ce que je veux dire, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois chez Guérin et chez Drolling, Henner va côtoyer une génération d'artistes alsaciens, et c'est très important parce que ce sont des artistes. Alors il y avait Lix, qui ont une certaine notoriété, évidemment, qui ne se sont pas hissés à la notoriété de Henner, mais quand même, il y avait Lix, il y avait Touchemolin, il y avait Jund, il y avait Brion, etc. Et en fait, ils ont créé ce que Hans Haug, l'ancien directeur des musées de Strasbourg, avait appelé le réalisme folklorique. Et ils ont créé une sorte de scène un peu régionaliste, et il se trouve qu'ils mettaient un peu en avant une image idyllique de la province, en l'occurrence la province alsacienne. Et il se trouve qu'à Paris, dans la seconde partie du 19e siècle, il y a eu une mode comme ça pour ces scènes régionalistes qui pouvaient concerner la Bretagne, qui concernaient l'Alsace, les régions qui étaient un peu typées. Et donc, ça a été important pour Henner de passer par ces maîtres-là, de rencontrer ces condisciples-là, parce que ça a créé des amitiés qui ont duré toute sa vie, parce que c'était quelqu'un, j'imagine, enfin j'ai l'impression de très fidèle, mais même si lui, évidemment, s'est hissé bien vite dans une autre catégorie que la peinture régionaliste alsacienne, évidemment.
Hervé, 1858 est un tournant dans la vie de Jean-Jacques Henner. Il obtient le prestigieux prix de Rome de peinture, ce qui va lui offrir un séjour d'une année à la Villa Médicis, et c'est sa rencontre avec l'art italien qui nourrit les peintres de son époque.
Alors ça a été fondamental, évidemment. Ça a été fondamental à plusieurs titres. Alors il y restait 4 ans en fait, hein. C'était entre 59 et 64. C'était fondamental tout d'abord parce que ça lui a mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire ça a lancé sa carrière. À partir du moment où on avait le prix de Rome, et c'est encore le cas aujourd'hui, on est un artiste reconnu, installé, et on sait qu'on va pouvoir vivre de son art, donc c'est pas rien. Mais ça a été important à plusieurs autres titres. D'abord, il a découvert la lumière. Pour un peintre, c'est quand même pas rien. C'est un peintre qui a vécu en Alsace et à Paris. La lumière du sud, quand même, de la Méditerranée, c'est quand même un peu autre chose. Donc là, on voit qu'il y a une différence entre les œuvres qui ont été faites après l'Italie et les œuvres d'avant. Celles d'après l'Italie sont beaucoup plus lumineuses. Et il a aussi découvert l'importance du réseau, d'une certaine façon, des réseaux. Parce que quand on fait une école comme ça, on se crée un réseau. Et c'est tout à fait normal. Il y a les condisciples avec lesquels on est qui vont devenir aussi des personnes importantes dans la vie artistique de son temps. Il y a les professeurs, il y a les gens qu'on rencontre à l'ambassade de France à Rome, etc. Et à ce niveau-là, je trouve qu'il y a une phrase assez intéressante, enfin tout à fait significative, je trouve, de Henner, qu'il a écrite à un de ses frères, je crois, quand il était à Rome. Et il écrit « Plus je vais, plus je m'aperçois que le talent n'est que secondaire et que l'intrigue, ou au moins les protections, font tout ». Et ça, c'est assez passionnant, parce que Henner était évidemment quelqu'un qui avait un talent énorme, qui avait même du génie. Mais ce talent et ce génie, s'ils ne sont pas montrés, sus auprès des bonnes personnes, peut-être que ça n'aurait rien donné. Donc c'est une leçon qu'il a repris, qu'il a apprise et qu'il a retenue. Et durant toute sa carrière, même si ce n'était pas un mondain, il a quand même cultivé une certaine vie mondaine à Paris, dans la société de son temps. Et puis il a aussi découvert que finalement, il n'était pas plus mauvais que les autres. Et ça aussi, c'est important. Il y a aussi une phrase de lui qui dit « Je crois que j'y arriverai, et surtout quand je vois ce que font les autres ». Donc ça lui a aussi permis de se mesurer et de voir qu'il avait tout à fait le niveau. Et puis, ça lui a fait découvrir les grands maîtres, et ça aussi c'est quand même la chose essentielle. Il faut quand même se souvenir qu'on est dans une époque, il y a plus de 150 ans, où il n'y avait pas Internet, la photographie était balbutiante. Et pour connaître l'histoire de la peinture, il fallait aller voir les peintres. Donc il avait vu les peintres au Louvre à Paris, mais c'était très important évidemment pour lui d'aller voir les maîtres, les grands maîtres italiens, en Italie. Et quand il était en Italie, pendant les 4 ans de formation en Italie, il n'est pas resté qu'à Rome, il est allé à Naples, il est allé à Florence, il est allé à Venise, il est allé à Milan, etc. Et donc c'était très important parce que lui s'est senti très en accord avec ces maîtres-là et il s'est défini finalement après comme étant également lui aussi un grand maître, en tout cas dans l'esprit, quoi.
Alors, son séjour italien et ses séjours parisiens ne lui font pas oublier ses origines alsaciennes. Il reste profondément marqué par cette identité et cela va se révéler singulièrement en 1871, au moment où l'Alsace est abandonnée par la France et entre dans l'Empire allemand. Il commet là l'une de ses œuvres majeures, l'Alsace, elle attend.
Oui, tout à fait. Son œuvre, sans doute, la plus célèbre. L'œuvre qui est peut-être aussi à l'origine, il faut le dire, de ce moment NR que l'on vit aujourd'hui. Hein. Donc, on est 150 ans après 1871, donc la perte de l'Alsace-Lorraine. Dans la foulée, au printemps, NR peint ce tableau, mais qui est absolument magnifique, qui s'appelle L'Alsace et Latan, et qui représente simplement un visage de jeune femme. Avec vêtue de noir, avec la coiffe alsacienne. La seule couleur dans ce tableau, à part son visage, c'est la cocarde tricolore. Et ce tableau lui a fait acquérir une grande popularité, enfin une célébrité, qui était déjà importante, mais vraiment qui est devenue beaucoup, beaucoup plus importante. Et en fait, ce tableau, il est devenu une icône pour tous ceux qui ne pouvaient se résoudre à la perte de l'Alsace-Lorraine dans le Nouvel Empire allemand. Et donc, il est devenu aussi, quelque part, le représentant, comme ça, de ces provinces perdues. Même si je ne pense pas que c'était quelqu'un qui avait un... Enfin, il avait une conscience politique, mais c'était quelqu'un d'assez modeste. C'était pas Émile Zola, vous voyez, qui allait prendre la parole dans les journaux pour accuser et pour dire les choses. Il était tout à fait humble, mais tout à fait résolu et tout à fait alsacien et tout à fait disposé, évidemment, à marquer sa réprobation de ce qui s'était passé, bien évidemment. Et donc, l'Alsace et Latan, c'est un portrait d'une femme qui montre comme ça une forme de résignation, mais de résolution. Elle mêle le deuil et l'espoir, et c'est tout à fait splendide. Et donc l'Alsace a été importante pour lui toute sa vie. Il est devenu une personnalité du tout Paris artistique du Second Empire et de la Troisième République, mais il revenait régulièrement en Alsace, même quand il lui a fallu un passeport pour revenir, puisqu'après 1871, c'était devenu une terre étrangère, donc il a opté en 1872.
La frontière est quand même assez ouverte, hein,
tout à fait,
assez fluide.
Tout à fait, mais c'était quand même un peu compliqué pour lui de se dire qu'il n'allait plus en France quand il rentrait chez lui.
Bien sûr. Hein.
Et puis, ce qu'il faut signaler, c'est que il est devenu relativement riche, NR, enfin, comme les artistes qui avaient du succès au 19e. Mais plutôt que de se faire construire un hôtel particulier, comme le faisaient la plupart de ses collègues, il s'est construit une maison, qu'on a appelée le château, mais bon, qui n'est pas très non plus luxueuse et puis ostentatoire, mais qui est une bonne petite maison à Bernevillers. Et c'était important pour lui de revenir là parce qu'il se ressourçait sans doute. Il était loin de l'agitation parisienne, de la pression parisienne, et puis il retrouvait quelque chose de fondamental qui était ces paysages du Sundgau qui, après, d'ailleurs, on peut le signaler aussi, après 1871, ont été le décor quasiment permanent de la plupart de ces scènes idylliques. Il y a eu deux grandes périodes dans la vie d'ENR. Il y a eu avant et après l'Italie, on en parlait tout à l'heure, la peinture est devenue plus lumineuse. Et puis après 1871, sa peinture est devenue plus idyllique. Et on peut évidemment voir là une forme d'âge d'or liée à la perte des provinces perdues. Et donc, il se réfère à l'antique, il met des nymphes, il fait des tableaux qui s'appellent Idylle, Églogue, etc. Et chaque fois, le décor en arrière-fond, c'est un paysage finalement sundgauvien, avec un petit étang, une forêt, etc. Quoi. Donc l'Alsace est toujours restée chez lui très très importante, évidemment.
Hervé de Chalendar, la femme occupe une place essentielle dans l'œuvre de Jean-Jacques Henner.
Ah oui, tout à fait. En gros, je vais faire ça très schématiquement et de façon très caricaturale. Dans l'œuvre de Henner, il y a deux versants, ou deux et demi. Il y a les portraits de commande. Alors ça, c'était important parce qu'il fallait vivre. Et il se trouve qu'il était excellent là-dedans. Donc ça, c'est les portraits du tout Paris. Il a fait toute la famille Pasteur, il a fait toute la famille Schürer-Kössner. Et il était formidable là-dedans. On parlait de l'Alsace et Latan, qui est un très beau portrait. C'est l'attitude, le visage de la personne est magnifique. Et donc, il était très fort là-dedans. Mais c'était la partie, on va dire, pécuniaire de son œuvre, forcément. C'est ce qu'il faisait vivre. Puis à côté de ça, il y avait donc, j'en parlais, sa peinture idyllique. Et sa peinture idyllique, la plupart du temps, là encore, je suis très, très caricatural, ce sont des femmes nues dans un paysage qui peut évoquer le Sundgau, et souvent rousse, parce qu'il y avait cette attirance pour le roux, qui était sans doute une attirance esthétique, parce que ça allait bien avec sa gamme chromatique. Même les Christes sont roux chez Henner.
C'est un peu sa signature. Hein.
Voilà, c'est sa signature. Et d'ailleurs, c'est aussi intelligent, et il y a une auteure qui nous dit ça dans le Saison, c'est qu'en fait, on le reconnaissait immédiatement grâce à ça. Donc, c'était pas idiot, il y avait aussi un côté marketing. Et puis, il y a un troisième aspect dans son œuvre qui sont les têtes de fantaisie, alors qui sont des portraits de femmes où il y a juste la tête, et qui sont à la fois entre le réalisme et le symbolique. Mais c'est vrai que les femmes ont une œuvre, ont une part très très importante dans l'œuvre nerf, et en particulier le corps féminin et en particulier le corps nu. Et alors juste aussi pour préciser un peu cet aspect du rapport aux femmes, Enner était quelqu'un de... Il est resté célibataire toute sa vie, sans enfant. Il n'était pas connu pour coucher avec ses modèles comme beaucoup d'autres. Mais il était évidemment très intéressé par les femmes, j'imagine, même si ceci ne nous regarde pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait notamment créé, et c'est quelque chose dont on parle dans ce saison, un atelier des dames, qui montrait aussi qu'il était intéressé à l'émancipation des femmes. Et donc l'atelier des dames, il l'a créé avec un ami peintre qui s'appelait Carolus Durand. Pardon. Et c'était un cours de peinture réservé aux femmes peintres qui a eu un grand succès, par lequel sont passées des personnes comme Germaine Davis, Dorothy Tennant, Ottilie Roderstein, donc des artistes qui ont eu un peu quand même du succès. Et il se trouve que parmi ses élèves, il y avait aussi parfois des modèles, comme Juana Romani, qui était à la fois un modèle et qui est devenue aussi une élève peintre et une peintre. Et donc tout ça pour dire aussi qu'il était intéressé d'une certaine façon à l'émancipation des femmes. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui avait une vision comme ça, en disant « elles ne sont pas faites pour le grand art », bien au contraire. Il a été un Pygmalion pour beaucoup de femmes peintres.
Alors, c'est un peintre qui est célébré par la Troisième République.
Oui, tout à fait. Ben, En fait, il est comblé d'honneur, Enner, vraiment. Alors, je pense que ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait qu'il a bien compris qu'il fallait cultiver une certaine mondanité, cultiver certains réseaux, ça lui a servi. Et c'est devenu un peintre. Il a eu, par exemple, tous les grades de la Légion d'honneur, sauf le dernier. Il ne faut quand même pas exagérer, mais enfin, il est allé jusqu'à grand officier, il n'a pas été grand croix. Son bâton de maréchal, c'est qu'il a été élu membre de l'Institut, c'est-à-dire l'Académie française des Beaux-Arts, qui est l'équivalent de l'Académie française pour la littérature. Donc, il est devenu immortel. Donc, ça a été vraiment quelqu'un qui a été comblé d'honneur tout au long de sa vie professionnelle. Et ce qui fait qu'on en a fait un peintre, finalement, un peintre donc officiel, institutionnel, et donc on a cru académique, mais pas du tout. Ce qui est intéressant aussi, et là on en parle beaucoup dans ce saison, et notamment grâce à Christine Peltre qui parle de l'accueil critique de Enner, c'est qu'en fait on se rend compte que c'était quelqu'un qui était finalement assez moderne, qui était dans ses cercles officiels, qui exposait au salon tous les ans, et donc qui faisait partie vraiment de l'intelligentsia, mais pour autant ça l'empêchait pas de cultiver sa propre voix et d'être assez original. Alors on n'a pas su comment le situer, on a parlé un peu de naturalisme au début, un peu de symbolisme après, il y a même un critique qui l'a vu comme le roi des impressionnistes, ce qui était évidemment assez farfelu comme explication, mais tout ça pour montrer qu'il y avait une vraie modernité dans son art, tout en étant quelqu'un de très installé, très officiel, qui allait chez le président de la République, MacMahon, qui participait à tous les cercles. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une telle révolution culturelle, évidemment, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, d'un point de vue pictural à Paris, avec les modernes, les impressionnistes, les fauvistes, etc., que Enner, qui était perçu comme faisant partie de l'Ancien Monde, a tout de suite été oublié. C'était un peintre de l'Ancien Monde, un peintre de l'ancienne manière, un peintre carrément presque pompier. Et en fait, le fait de redécouvrir Enner aujourd'hui, grâce à ses expositions organisées à Strasbourg, Paris et Mulhouse, grâce à ce numéro hors série des Saisons d'Alsace, nous permet de voir que finalement, il y avait une grande injustice dans le fait qu'il ait été balayé par la modernité, même si ça peut se comprendre. Il y avait tellement de choses nouvelles qui arrivaient, mais qu'aujourd'hui, c'est très important de le redécouvrir et de redécouvrir sa grande originalité et quelque part, ça, encore une fois, ça, son inventivité. C'est quelqu'un qui a suivi sa propre voie et qui allait dans des terrains qui n'étaient pas forcément des terrains balisés, quoi.
Hervé de Chalendar, Jean-Jacques Enner décède à Paris le 23 juillet 1905. Il est inhumé au cimetière Montmartre. Vous signez dans ce hors-série des saisons d'Alsace qui lui est consacré, un article sur le Paris de Jean-Jacques Haner. Quels sont les lieux qui sont encore aujourd'hui, en 2021, imprégnés de son art? Alors, et de sa personne.
Alors, vous parlez du cimetière Montmartre. Le cimetière Montmartre, c'est passionnant. Hein. C'est un vrai voyage quand on va là-bas, parce qu'il y a un nombre de célébrités absolument incroyables.
Oui, ça n'a rien à envier au Père Lachaise.
Ah, tout à fait. C'est un Père Lachaise avec peut-être... oui, tout à fait. Puis avec beaucoup d'artistes. Il y a Guitry, il y a Dalida, il y a Michel Berger. On peut aller très loin. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'artistes de cette époque-là. Il y a la tombe d'Émile Zola, même s'il a été transféré au Panthéon. Donc il y a évidemment Montmartre, c'est important, le cimetière Montmartre. Ce qui est très important, évidemment, et ce qu'il faut absolument connaître et aller voir quand on va voir Haner, quand on s'intéresse à Haner, c'est le musée Jean-Jacques Haner qui se trouve aujourd'hui. Alors il peut y avoir une petite confusion dans l'esprit des gens, donc c'est pour ça que c'est pas mal d'en parler. Le musée Jean-Jacques Haner est dans un quartier qui s'appelle la Plaine Monceau, qui est au-dessus du parc Monceau, entre le parc Monceau et Matignolles à Paris. Qui a été d'ailleurs en partie urbanisé par un Alsacien qui s'appelait Antoine Herzog. On en parle ici dans le numéro.
On est dans le 17e arrondissement, si mes souvenirs sont exacts.
Exactement, 17e, voilà. Et donc, Antoine Herzog, c'est un industriel de la région de Colmar qui a créé. Et c'est pour ça que là-bas, d'ailleurs, on retrouve une rue de Tann, une rue de Logelbach. Voilà. Et donc, son musée est aujourd'hui dans un hôtel particulier de cette plaine Monceau. Sauf que c'était l'hôtel particulier d'un peintre plus tardif qui s'appelait Guillaume Dubuff et qui a été acheté en 1921 par la nièce de Haner pour en faire son musée. Et donc quand on va là-bas, il ne faut pas s'imaginer être dans la maison luxueuse de Jean-Jacques Haner, parce que c'est une maison luxueuse, c'est un hôtel particulier magnifique à côté de celui de Sarah Bernhardt. On est celui... dans l'hôtel particulier d'un artiste un peu plus tardif, vraiment de la fin du 19e, qui s'appelle Guillaume Dubuff. Et donc ce musée Haner, il est passionnant parce qu'il est très beau, c'est un très bel endroit, mais à la fois il montre la peinture de Haner, et puis à la fois il montre un hôtel particulier d'un artiste installé qui n'est pas forcément Haner. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête. Et puis bah, il y a aussi, alors ça c'est assez rigolo, on est allé le voir dans le cadre de ces saisons, l'atelier de Haner. Et lui, il se trouvait Place Pigalle. Et aujourd'hui, quand on va voir l'atelier de Haner, on tombe sur un cabaret qui s'appelle Les Folies Pigalle. Et donc, voilà, d'une certaine façon, on est passé des femmes nues de Haner en peinture et femmes un peu idylliques à des femmes bien réelles, bien en chair, qui sont aujourd'hui les femmes de Pigalle.
Voilà. Lui vivait dans le quartier de la Nouvelle-Athènes.
Voilà.
Était le quartier des artistes de son temps.
Tout à fait. Voilà. Alors lui, il était. En fait, il y a une succession comme ça dans le temps des quartiers parisiens, des quartiers artistes parisiens. Vous voyez. Donc le quartier artiste du temps de Haner, c'était effectivement la Nouvelle-Athènes, à peu près au milieu du 19e siècle. Il s'était installé là. La place Pigalle, dont je parlais, où il avait son atelier, était juste au nord de cette nouvelle Athènes. Il y avait d'ailleurs un marché des modèles qui était là, donc ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de peintres. Et donc
la nouvelle Athènes, c'est dans le 9e arrondissement. Hein.
Voilà, le 9e, donc c'est un peu plus bas. Hein. On va du nord au sud, il y a la plaine Monceau dont on parlait tout à l'heure, il y a la place Pigalle, et puis on descend encore en dessous au 9e. Dans le 9e, il y a cette nouvelle Athènes. Donc lui, il était là. Alors là, on peut voir, il y a une plaque sur la maison où il est mort, qui est rue La Bruyère. Et donc, voilà, il y avait ce premier quartier artiste. Après, il y a eu un deuxième quartier artiste qui était Plaine Monceau, où aujourd'hui, on peut aller voir son musée. Et il faut aller le voir parce que le musée Haner, c'est une splendeur. Pas très loin, il y a Montmartre, le cimetière Montmartre. Et puis, bah, à l'époque, il y avait aussi évidemment le quartier Montmartre de la Bohème. Et c'est là où il y a eu une petite différence à un moment donné entre les artistes, on va dire, bourgeois, qui étaient Plaine Monceau, des artistes comme Meissonnier, voilà, qui étaient vraiment de l'art pour le coup, c'était vraiment l'art académique. Et puis, bah, tous les fantastiques créateurs qui sont allés au bateau Lavoir, etc., un peu plus tard, du côté de Montmartre, avec Modigliani, Picasso, etc. Quoi. Voilà.
Hervé de Chalendar, merci beaucoup. Pour cette présentation du hors-série des saisons d'Alsace, le hors-série automnal consacré à Jean-Jacques Haner, un maître alsacien. Pour ceux qui seraient intéressés à découvrir ou à redécouvrir son œuvre, il y a plusieurs expositions qui sont actuellement proposés en Alsace et à Paris. Mais il y a aussi une collection permanente tout à fait remarquable au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse.
Voilà, on a la chance en Alsace d'avoir, en dehors de ces expositions qui sont importantes, notamment à Strasbourg en ce moment avec une rétrospective formidable, les deux plus grandes collections hors Paris de NR, qui sont au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, avec une cinquantaine d'œuvres, et puis au Musée Sungovien d'Alkirch, parce qu'il y a un mécène qui prête des NR, où il y a une quarantaine d'œuvres. Donc on a vraiment cette chance en Alsace de pouvoir voir, même en dehors des expositions actuelles, du NR quand on veut, tout, de façon permanente.
Hervé, merci beaucoup.
C'est moi.
À très bientôt, parce que je vous accueille volontiers pour la présentation des prochains numéros de Saison d'Alsace. C'est Barbara qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, 1970, L'Aigle Noir.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. Les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis. Des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles. Des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, brille son vol. Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit.
Mm-hmm.